Merci, Monsieur le Président. Lorsqu'un historien s'aventure à parler d'un écrivain, il pénètre dans le champ littéraire avec crainte et tremblement, comme il est écrit, car il se sent comme en terre étrangère, extérieur à son objet, illégitime dans son propos, dénué de pertinence dans ses méthodes. Il redoute surtout de généraliser l'analyse et d'appauvrir la réflexion. Cette crainte et ce tremblement, il l'éprouve plus encore en abordant, grâce à la générosité ou à l'imprudence des organisateurs de ce colloque, la personnalité redoutable et l'œuvre plus singulière encore de Léon Blois. Si ce dernier, comme on sait, n'a cessé d'explorer à sa manière l'histoire, de Christophe Colomb à Marie-Antoinette et Louis XVII, des empereurs porphyrogénètes de Byzance, nous l'avons vu tout à l'heure avec l'exposé de Monsieur Deluy, jusqu'à Napoléon, que peuvent peser à ses yeux les exigences de la chronologie, la critique externe et interne du document, pour parler comme Langlois et Seignobos, deux contemporains de l'auteur que ce dernier aura renvoyé d'un revers de main à leurs chères études en Sorbonne, ou encore l'enchaînement des causes et des effets de l'histoire méthodique de la Troisième République, ou même les problématiques et les catégorisations de l'historien d'aujourd'hui, face à des assurances ultimes de celui qui écrira dans l'homme de Napoléon, l'histoire est comme un immense texte liturgique où les iota et les points valent autant que des versets ou des chapitres entiers, mais l'importance des uns et des autres est indéterminable et profondément cachée. Si donc je pense que Napoléon pourrait bien être un iota rutilant de gloire, je suis forcé de me dire en même temps que la bataille de Friedland, par exemple, a bien pu être gagnée par une petite fille de 3 ans ou un centenaire vagabond, demandant à Dieu que sa volonté fût accomplie sur la terre aussi bien qu'au ciel. Le pèlerin de l'absolu réfute d'emblée temporalité et causalité dans une conception de l'histoire comme exégèse du passé, du présent et de l'avenir. Tout événement fait sens et se mesure à l'aune d'une parole éternelle. L'incendie du bazar de la Charité, l'éruption de la montagne Pelée en Martinique, la Grande Guerre comme cataclysme universel, sont autant de signes dont on ne saisira la signification et la portée qu'à la fin des temps. L'apparition de La Salette et ses témoins auxquels Léon Blois consacrera tant d'attention et accordera tant d'importance dans sa vie et dans son œuvre participent de cette intelligence providentielle. Peut-on dès lors espérer relire et oser interpréter le monument exégétique, théologique, spirituel et littéraire médité et érigé sur près de 4 décennies autour de l'apparition de La Salette et de la figure de Mélanie à la lumière d'une histoire des apparitions mariales d'une part et du prophétisme catholique d'autre part? C'est ce défi qu'on voudrait ici tenter de relever avec les outils et les catégories de l'historien, mais aussi les prudences et les précautions du lecteur dûment prévenu par l'auteur de l'inanité de son discours et de la fausseté de sa position. En rappelant d'une part la situation particulière de cette apparition et de cette prophétie au tournant des 19e et 20e siècles, en s'efforçant d'autre part d'esquisser le rôle singulier que Blois s'est adjugé dans la construction d'un récit mariophanique et l'apothéose d'une parole inspirée, en s'interrogeant enfin sur la fonction qu'il assigne, en lecteur attentif de Joseph de Maistre, à l'inscription de Dieu dans l'histoire. L'apparition de La Salette, le 19 septembre 1846, constitue ainsi, aux yeux de Léon Blois, l'événement ou un des événements capitaux du XIXe siècle. Il ne lui a consacré pas moins de 3 ouvrages, le symbolisme de l'apparition, manuscrit inachevé des années 1879-1880, qui ne sera publié qu'en 1925, et qui devait former le commentaire inspiré, paraphrase plutôt qu'exégèse, assure modestement l'auteur, du message de la Vierge rapporté par les 2 bergers de La Salette. Celle qui pleure, en 1908, une double méditation sur le sens de l'apparition, mais aussi sur la figure de Mélanie Calva dans sa trajectoire prophétique et apocalyptique de 1846 à sa mort en 1904. Enfin, l'introduction à la vie de Mélanie par elle-même, dédiée à sa fille Madeleine en 1912, qui explore avec ferveur le récit autobiographique de la bergère, muée enceinte. Mais c'est l'œuvre entière de Blois, on le sait, essais, romans, journaux, correspondances mêlées, qu'il faudrait ici convoquer, tant La Salette en constitue un fil rouge et l'une des structures portantes. quatre pèlerinages sur la montagne sainte ponctuent cet itinéraire mariophanique d'une intensité peu commune. Le substrat est comme la matière même de l'acte pèlerin, c'est l'espace, a écrit Alphonse Dupron dans Du Sacré. Le geste pèlerin, la sortie hors des lieux de la familiarité pour aller vers l'inconnu, la montée à pied ou à dos de mulet vers le haut lieu où souffle l'esprit, Léon Blois les a pratiqués dans son corps avant de les transcrire de sa plume. Il écrit « J'ai fait le pèlerinage de la Salette autrefois » en faisant allusion à son premier pèlerinage. Il n'y a pas loin de 30 ans, lorsque le chemin de fer de Grenoble à la Mure n'existait pas. Une diligence homicide, attelée de 12 chevaux dans certaines montées, cassait les reins des voyageurs, de l'aurore au crépuscule, dans les plus longs jours. On râlait 10 heures avant d'être abandonné au muletier. C'était fort bien, d'ailleurs. Cela dégoûtait plusieurs touristes, et le paysage était affectueux et consolant pour le pèlerin. La Salette, ajoute-t-il, est par essence et par excellence un pèlerinage de va-nu-pied. Son voyage initial et initiateur au sanctuaire alpin, il l'accomplit ainsi à l'âge de 33 ans, l'âge du Christ, aux côtés de l'abbé Tardif de Moindray, du 29 août au 9 septembre 1879. Le prêtre, dont nous parlera demain M. François Gadem, entend confier au jeune écrivain la mission de formuler, dans l'esprit d'une exégèse biblique renouvelée, une glose somptueuse et mystique à la gloire de la Vierge de la Salette, qui constitue le projet même, demeuré inachevé, du symbolisme de l'apparition. Mais on le sait, le 28 septembre 1879, l'abbé Tardif de Moindray s'éteint à l'âge de 51 ans au sanctuaire, privant soudain son protégé, qui avait regagné Paris, de toute ressource. Un an plus tard, peu avant l'abandon définitif de la rédaction du symbolisme de l'apparition, Blois renouvelle son pèlerinage, cette fois-ci aux côtés d'Anne-Marie Roulet, du 17 septembre au 16 octobre 1880. Faute de subsides pour le retour, leur séjour s'éternise, rendant encore plus aigu qu'il n'était le conflit entre Blois et les missionnaires peu hospitaliers de la Salette. Les deux ultimes pèlerinages de Blois sur la Sainte Montagne se situent par contre à la fin de la vie de l'auteur, et procède de la générosité d'un nouveau mécène, le géologue Pierre Termier. Blois se rend une troisième fois au sanctuaire, cette fois-ci en compagnie de son épouse, Jeanne, et de ses deux filles, Véronique et Madeleine, du 7 au 31 août 1906, pour son 60e anniversaire, qui coïncide avec les 60 ans de l'apparition. Il retrouve sur la montagne son ami et traducteur tchèque, Joseph Florian, accompagné d'un prêtre de sa nation. L'écrivain est de retour une dernière fois à la Salette, quatre ans plus tard, du 13 au 18 juin 1910, en compagnie de son ami Philippe Raoult, d'une dame de Toulon et de deux prêtres mélanistes, les frères Cornuau. Il rencontre à Cor le frère de Mélanie, Eugène Calva, un pauvre petit vieux, dit-il, maçon très humble et vivant de son travail à 77 ans. Il manque aussi croiser au sanctuaire l'un des voyants de l'apparition, Marial de Pontmain, sans doute, estime Pierre-Claude, l'abbé Joseph Barbedette. L'atmosphère sereine de cet ultime pèlerinage demeure toutefois teintée d'amertume et de tension en raison des difficultés persistantes avec clergé et hospitaliers. « Nous montons à la Salette péniblement », écrit dans son journal Blois, « mais l'âme joyeuse à travers un épais brouillard qui se dissipe pour faire place, juste au moment de notre arrivée, à un éclatant soleil empressé de nous bien venir, ce dont les chapelains se dispensent. Promenade dans la montagne, revue avec battement de cœur, l'endroit charmant, paradisiaque, où Véronique, il y a 4 ans, chantait pour Florian. Le brouillard, il est vrai, ne nous permet pas de jouir complètement de ce paysage bordé de gouffres que je me figure le plus beau du monde. Départ à 7 heures, nul ne se présente pour nous souhaiter un heureux voyage. Une saison s'achève dans la vie de Léon Blois, il ne reverra plus, durant les 7 dernières années qu'il lui reste à vivre, la Sainte Montagne qui lui était si chère. Léon Blois aura toutefois l'occasion à de multiples reprises d'exprimer le caractère incomparable du lieu et de l'événement, de lier étroitement l'apparition et ses témoins à sa vie et à son œuvre, et de marquer plus fortement encore la centralité de l'apparition, non seulement dans l'histoire du salut. Non seulement il aime à rappeler qu'il est né l'année même de l'apparition, « Je suis né en 1846 », écrit-il à Pierre Termier, « 70 jours avant l'apparition, j'appartiens donc à la Salette en une façon assez mystérieuse », mais il se plaît même à dresser une sorte de parallèle entre la non-réception de son œuvre et l'ignorance où demeurent la plupart des catholiques du message de la Vierge à la Salette. « Regardez, dit-il à la Vierge, maintenant, le pauvre instrument que je suis, victime comme vous de la conspiration du silence. » Blois est surtout par excellence celui qui confère à l'apparition un caractère central dans l'histoire du plan de Dieu sur l'humanité infidèle, même s'il borne le message de la Vierge à la sanctification du dimanche, dans laquelle il voit par une intuition assez juste la sanctification du travail, et à la condamnation du blasphème. Ce qui lui importe, c'est que le 19 septembre 1846, la Vierge a pour la première fois parlé depuis la mort de Jésus-Christ sur la croix. Je le cite, « La révélation de la Salette, envisagée comme une rupture éclatante de ce silence de 2000 ans, offre en même temps à la pensée un aspect d'ineffable consolation et un aspect de profonde terreur. Pendant 18 siècles, poursuit-il dans « Celle qui pleure », en apostrophant directement la Vierge, « vous avez gardé le silence après avoir parlé 6 fois seulement dans les évangiles. À la Salette enfin, et pour la 7e fois, vous parlez avec une autorité si souveraine qu'après cela, il ne peut plus y avoir que le jugement universel et la combustion des mondes. » Si Blois prend soin de préciser au détour d'un paragraphe, par une sorte de sursaut d'orthodoxie et un scrupule dogmatique, qu'il est bien entendu que Marie n'est pas Dieu, quoique mère de Dieu, l'ensemble de son livre confère aux paroles placées par les deux bergers sur la bouche de la Vierge une autorité éminente. À la Salette, elle parle à la première personne comme Dieu seul peut parler. Marie est la seule ayant le droit de parler d'elle-même absolument, comme Jésus parle de lui-même quand il dit « Je suis la lumière, la vérité, la vie ». Rien ne peut exprimer sa dignité. Théologiquement, il est aussi impossible de l'adorer que d'exagérer le culte d'honneur qui lui appartient. Elle est ce feu de Salomon qui ne dit jamais « en voilà assez ». Elle est le paradis terrestre et la Jérusalem céleste. Elle est celle à qui Dieu a tout donné. La Salette devient ainsi un apax dans l'histoire du salut. Le discours de la Vierge, le témoignage des deux bergers, le secret et la prophétie de Mélanie rompent en partie aux yeux de Blois avec l'idée que la révélation serait close, achevée. Certes, assure-t-il, la parole de Marie est toujours identique à la parole de l'Esprit-Saint, que l'Église nomme son époux et qui la pénètre indiciblement. Elle est, je cite encore, « toujours par nature en assimilation et parabole ». Elle est surtout itérative, Dieu disant toujours la même chose et ne parlant jamais que de lui-même. Mais elle invite d'autant plus chaque fidèle à se saisir et se pénétrer de ce témoignage d'elle-même à elle-même dans le désert en présence de 2 petits-enfants. Il dénonce à cet égard un double déficit d'obéissance et d'intelligence envers le texte. Le discours, assure-t-il, a été à peine plus remarqué et plus scruté que l'apparition. Cette révélation paraclétique, dont la portée dans tous les sens est certainement infinie, on ne l'a, que je sache, ni commentée, ni étudiée. La capitale nouveauté de l'événement impose à ses yeux une voie radicalement nouvelle pour l'exégèse. Il l'affirme dans son quelque emphase. Avant le 19 septembre 1846, aucune de ces manifestations de la Très Sainte Vierge n'avait eu ce caractère d'universalité qui est le caractère propre du miracle de la Salette et qui le met à part et infiniment au-dessus de tous les miracles des saints. Or, Blois se rencontre ici, à son insu ou consciemment, l'interrogation mériterait d'être approfondie, car les antimodernes sont aussi à leur manière des modernes, par leur intransigeance même, avec l'un des enseignements majeurs de l'histoire des apparitions en France au XIXe siècle. La Salette constitue bien une mutation capitale dans la structure des mariophanies de l'âge contemporain. Elle incarne effectivement un tournant décisif en ce qu'elle fonde ce qu'on a proposé d'appeler le modèle attestataire de l'apparition. La Salette est en effet historiquement en France la première apparition mariale reconnue par un mandement de l'autorité épiscopale. « Nous jugeons, écrit Mgr de Bruyard, évêque de Grenoble, dans son mandement du 19 septembre 1851, que l'apparition de la Salette à deux bergers, le 19 septembre 1846, sur une montagne des Alpes, située dans la paroisse de la Salette de l'archiprêtré de Cor, porte en elle-même tous les caractères de la vérité et que les fidèles sont fondés à la croire indubitable et certaine. Seules deux autres apparitions, parmi les dizaines qui sont attestées dans la seconde moitié du XIXe siècle, bénéficieront d'une approbation ecclésiastique de ce type, c'est Lourdes et c'est Pontmain. On pourrait difficilement mieux signifier la factualité qui caractérise désormais, à travers un lieu, une date, des témoins, l'apparition mariale. En quoi, en effet, le modèle attestataire de l'apparition des décennies centrales du XIXe siècle français rompt-il avec la tradition qui l'a précédée, qu'on pourrait qualifier de tridentine ? Pour faire bref, les apparitions de l'âge moderne, attestées en France, en Italie ou en Espagne depuis la fin du XVe siècle, obéissent à une double contrainte, d'ordre dogmatique et d'ordre pastoral. Sur le plan doctrinal, si les apparitions se distinguent nettement des visions, en tant qu'elles constituent ce qu'on a proposé d'appeler des manifestations sensibles attestées publiquement, elles n'en demeurent pas moins, et l'Église catholique n'a jamais varié sur ce point, des révélations privées. À la suite du traité du discernement des esprits du cardinal Bonnat, tout de retenue et de discrétion dans l'examen des faits d'apparition, le traité de la béatification et de la canonisation des serviteurs de Dieu, édité par le canoniste Prospero Lambertini, qui va devenir le pape Benoît XIV, et dont les écrits font autorité à Rome et dans la catholicité jusqu'au milieu du XXe siècle, définit également les apparitions relatées dans les procès comme de simples révélations privées dont la validité est suspendue à un examen doctrinal, qui sont insuffisantes en soi à servir de preuve de sainteté et qui n'impliquent aucun assentiment de foi. Dans l'ordre pastoral, la plus grande prudence est donc de mise à l'époque moderne dans le strict respect de l'autorité et de la discipline de l'Église. Le modèle tridentin de traitement des faits d'apparition mariale attestés par des fidèles impose ainsi un mode de réception qui privilégie la dévotion par rapport à l'attestation, le sanctuaire par rapport aux voyants, les grâces et les miracles par rapport à l'apparition elle-même, la longue durée par rapport à l'événement. Dans ces apparitions et dans ces sites, Notre-Dame des Trois Épis en Alsace, ou Notre-Dame de Garaison au pied des Pyrénées, Notre-Dame de Cotignac en Provence, Notre-Dame du Lauz ou Notre-Dame de Lauziers dans les Alpes, et encore en 1830 à Paris, au couvent de la rue du Bac, où les apparitions dont se porte témoin Catherine Labouret ne sont pas attestées en tant que telles, mais sous la forme d'une médaille miraculeuse, on privilégie l'effacement progressif de l'attestation mariophanique dans un récit de tradition et dans des images. On favorise l'effacement des témoins de l'histoire du sanctuaire, qu'ils soient marginalisés ou éloignés du lieu des apparitions, ou même simplement oubliés. On promeut enfin la concentration de l'élan dévotionnel autour du sanctuaire et de ses sacralités, dans un contexte de forte régulation ecclésiale de la part des autorités ecclésiastiques. L'apparition de l'âge moderne demeure essentiellement un signe qui acquiert sa seule signification légitime au sein d'une pastorale collective, ordonnée et prise en charge intégralement par l'Église. L'apparition de la Salette rompt brusquement en 1846 avec ce schéma et impose pour un quart de siècle, entre 1846 et 1871, jusqu'à ce que les périls qu'il porte en lui se soient révélés presque insurmontables, un modèle autre, ce modèle attestataire. L'apparition, depuis la Salette, repose désormais sur la qualité particulière d'un témoignage. Voyant et voyante occupent une place centrale, irremplaçable, incontournable, irréductible dans l'attestation de la présence mariale, hic et nunc, ici et maintenant, en un lieu et en un instant donné. La perspective pastorale, qui dominait l'approche tridentine, cède le pas à un modèle plus factuel dans ses formulations, plus individuel dans ses formes de recognition, plus populaire dans ses formes de réception, non sans susciter parfois des tensions entre Église, témoins, autorités, fidèles. Le témoin, qui demeure par prédilection un simple, femme, enfant, pauvre, joue désormais un rôle majeur dans l'affirmation de la mariophanie, comme dans la reconnaissance de son authenticité. Garant d'une croyance à laquelle il a voué sa vie et qu'il n'a cesse de transformer en savoir, le voyant est tour à tour requis et invoqué comme preuve vivante, comme prophète et comme élu, bientôt comme saint. Le peuple fidèle l'entoure de son affection et de son respect. cet innocent dans lequel il retrouve ses propres critères de vérité et se reconnaît. Il confère crédit religieux et puissance sacrale à son dire. Aussi, les populations chrétiennes se portent-elles en masse sur les lieux de l'événement où elles élaborent spontanément des pratiques rituelles et pressent l'autorité ecclésiastique de se prononcer. Textualité et intégralité du récit, factualité de l'apparition, littéralité du message, autonomie des témoins, irruption des foules, l'élan de la foi des simples dans le fragile équilibre institutionnel construit au fil des siècles autour de l'apparition, est ainsi remis en cause du fait de la violence affirmative des témoins et de la ferveur inquiète des foules. L'Église catholique, en un quart de siècle, voit l'apparition attestataire s'inventer à la Salette pour s'accomplir à Lourdes et se renouveler une dernière fois à Pontmain. Blois, dans son orthodoxie toujours proclamée, est conscient, sinon de la mutation intervenue, du moins du privilège inouï que constitue l'approbation épiscopale de cette apparition unique de la Vierge aux deux bergers de la Salette. Il s'en fait l'écho à plusieurs reprises. Dans le symbolisme de l'apparition, avec tout l'ardeur de son patriotisme, il assure, je cite, que c'est la France qu'elle a choisie pour se manifester trois fois en 33 ans. La Salette, Lourdes et Pontmain sont la triple affirmation de cette mystérieuse et persistante prédilection. Mais c'est aussi pour distinguer très nettement la Salette de ses rivales. Dans son introduction à la vie de Mélanie, il rappelle, en s'adressant à la Vierge elle-même, que 12 ans plus tard, vous vous manifestâtes à une autre bergère, entendait Bernadette, mais sans lui montrer vos grandes larmes, dont les chrétiens n'avaient pas voulu, ni sans lui confier ce secret redoutable que la première avait été chargée par vous de divulguer et de répandre, combien en vain. Lourdes prévue, annoncée par la Salette, était un effort plus héroïque, un travestissement de votre douleur, semblable au travestissement d'une mère qui, la mort au cœur, mettrait en habit de fête pour rassurer ses enfants. Quant à Pontmain, il précise, un peu plus de 12 ans s'écoulèrent encore, et il y eut ce qu'on a nommé l'année terrible, Léon Blois citant Victor Hugo. La France piétinée par des brutes se tordait les bras. Une dernière fois, vous apparûtes à de pauvres enfants d'une manière tout énigmatique, vous déroulâtes dans le ciel d'étranges images de vous-même, accompagnées de brèves et réticentes paroles écrites, pouvant signifier aussi bien l'extrémité de la menace que l'extrémité du pardon. Mais les mariophanies, estime-t-il en 1912, ont fait long feu. On n'a plus eu de vos nouvelles. Le monde chrétien, que ce silence devrait effrayer, a continué de descendre. La Salette méprisée, Lourdes devenue un lieu de négoce et un thème de littérature, c'est pour Zola et Huysmans. Pontmain, une image de piété. La Salette et Lourdes ne sauraient surtout à ses yeux se confondre. L'apparition de la Salette, affirme-t-il, correspond au mystère douloureux et l'apparition de Lourdes est en harmonie avec la brillante constellation des mystères joyeux. Il poursuit encore « Quelques-uns ne manqueront pas de dire que je suis un ennemi de Lourdes. Le miracle de Lourdes a été une suite du miracle de la Salette. » Et d'écrire « J'écris cela le jour de l'Assomption. D'autres voient Marie dans la gloire, je la vois dans l'ignominie. J'ai beau faire, je ne me représente pas la mère du Christ douloureux dans la douce lumière de Lourdes. Cela ne m'est pas donné. Je ne sens pas d'attrait vers une immaculée conception couronnée de roses blanches et bleues dans les musiques suaves et dans les parfums. Je suis trop souillé, trop loin de l'innocence, trop voisin des boucs, trop besogneux de pardon. Ce qu'il me faut, c'est l'immaculée conception couronnée d'épines. Madame de la Salette, l'immaculée conception stigmatisée, infiniment sanglante et pâle, et désolée et terrible parmi ses larmes et ses chaînes, dans ses sombres vêtements de dominatrice des nations, faite comme une veuve, accomplie dans la solitude, la Vierge aux épées. Il n'existe pas, dans l'âme douloureuse de Léon Blois, de suite mariophanique, comme on dira parfois au XIXe siècle. Il ne veut considérer que celle qui pleure sur la montagne sainte, ici et maintenant et pour l'éternité, ainsi que ses témoins méprisés, Maximin et Mélanie, de pauvres enfants, les plus pauvres et les plus rampantes créatures humaines, qui construisaient dans les alpages des paradis de fleurs et de pierres, avant d'être appelés à converser en français et en patois avec la reine du paradis elle-même et d'être pour toujours habités par sa parole. Aussi Blois n'a-t-il cesse, dans le symbolisme de l'apparition, Ce travail, conçu, dit-il, dans l'indignation la plus profonde et dans l'amertume d'un corps navré, comme dans celle qui pleure, de célébrer l'unicité du lieu et l'historicité de la date de l'apparition, hic et nunc, tout en les intégrant dans une exégèse plus ample, dans l'espace comme dans le temps. La mère, dit-il, nous attend toujours sur la montagne de l'apparition, car il n'est pas indifférent, ajoute-t-il, de se prosterner ici ou ailleurs. Il ne manque pas non plus de souligner que la route de la Mure à Cor, qui suit la torrentielle vallée du Drac, qui effraya Huysmans, et il s'en moque, constitue aussi un tronçon de la route Napoléon, qu'emprunta en mars 1815 le pauvre César évadé, mendiant incorrigible de la domination universelle. Mais ce paysage abrupt et grandiose constitue à son tour une parabole. Cette queue de serpent, écrit-il dans le symbolisme de l'apparition, à propos de la pierre sur laquelle s'est assise Marie en pleurs sur la montagne, c'est toute la suite monstrueuse de la concupiscence originelle. Elle ne traîne pas seulement dans ce ravin solitaire d'une montagne inconnue du Dauphiné, elle plonge et s'agite dans les ravins bien autrement profonds du corps de l'homme. La temporalité de l'apparition, en ce crépuscule de la monarchie bourgeoise du roi Louis-Philippe, durant laquelle il a vu lui-même le jour, lui inspire également une perception tour à tour sarcastique et tragique de l'irruption de la parole de Marie dans l'histoire. Blois est allé jusqu'à rechercher l'extrait du Moniteur du jour, où l'on apprend que l'événement le plus considérable de ce 19 septembre 1846 a été la promenade apéritive effectuée dans le parc de leur château de La Ferté-Vidame par le roi, la reine, leur altesse royale, madame la princesse Adélaïde et leurs hôtes, avant que, je cite encore, leur majesté et leurs altesses ne rentrent au château pour dîner en attendant les illuminations du soir. Mais il convoque également, afin d'éclairer l'événement, dans un saisissant tableau d'époque, un peu à la manière du « En l'année 1817 » de Victor Hugo dans « Les Misérables », Louis-Philippe et Guizot, cela donne un hérétique solennel conduisait majestueusement à l'abîme un voleur de couronne, le premier socialiste de Saint-Cyrion et de Fourier, Proudhon, le Platon de la canaille révolutionnaire, Eugène Sue, la lumière du socialisme naissant, Georges Sand, c'est encore plus méchant, cette fille trouvée du cuistre Jean-Jacques se boursouflait comme la pécore du fabuliste dans le marécage des adultères héroïques et évangélisait contre Dieu. Et enfin Jules Michelet, le plus maltraité, un historien, le crocodile byzantin de l'histoire, pleurait contre l'Église ses larmes hypocrites et sacrilèges pour lesquelles il semble qu'il n'y ait point en enfer de suffisantes expiations. Et toutes ces importances, dit-il, qui poussaient alors comme des champignons vénéneux sur les plates-bandes orléanistes, ont suffi cependant pour faire obstacle à ce que j'ose appeler l'épiphanie de Notre-Dame des Sept Douleurs. Mais c'est pour inscrire aussi la temporalité de l'apparition dans une histoire encore dissimulée aux hommes. Celle, par exemple, mais on y reviendra, du dauphin Louis XVII, incarnant la légitimité monarchique dans un Ohndorf ou dans un Richemont, les témoins de la Salette, notamment Maximin, seront invités à le faire dans quelques cercles, ou encore dans une perspective plus proprement eschatologique. Dans un essai de paraphrase de son discours, conclut-il, « J'ai pensé qu'il pouvait être utile aux approches évidentes des derniers temps du monde et sous la menace des exterminations universelles de tenter un effort nouveau pour attirer à la lumineuse méditation des textes sacrés les hommes égarés dans le labyrinthe pestilentiel des littératures simplement humaines, ou les intelligences enfermées dans la spéculation terrible d'un christianisme exclusivement évangélique. L'apparition attestataire se mue à travers le destin de ses témoins, en prophétie pour la fin des temps. » En projetant l'obscure clarté de la Salette sur la personne de ses deux témoins, sur le secret de Mélanie, sur la réécriture autobiographique de son existence, Léon Blois n'entend en effet n'introduire aucun cloisonnement strict entre les différents moments et les étapes successives de l'événement dans ses plus tardifs développements. Il récuse en cela l'autorité du Saint-Office comme celle des évêques de Grenoble, Mgr Ginouillac et surtout Mgr Fava, qui entendent reprendre en main la gestion spirituelle du sanctuaire et en écarter les témoins. Il ne perd pas une seule occasion pour dénigrer les missionnaires de la Salette qui ont été affectés au pèlerinage, puis les chapelains de la Salette qui leur ont succédé. La Sainte Vierge avait demandé des apôtres, on lui donna des aubergistes, tonne-t-il. À l'autorité épiscopale, Il ne manque pas d'opposer et la parole incandescente de la Vierge de la Salette et les secrets des deux voyants et les dons prophétiques de Maximin et l'identité du discours public et du secret de Mélanie, je cite, et la suite extraordinaire de miracles et de prodiges dont Mélanie constelle son récit d'enfance, ainsi que le projet de fondation d'une congrégation des apôtres des derniers temps, dans une perspective que Blois rattache à l'inspiration d'un Grignon de Montfort et de son traité de la dévotion à Marie, publié en 1843. Le mélanisme de Blois constitue ainsi une variante de sa position de surplomb sur l'Église de son siècle. Il s'inscrit dans ce sens, pour reprendre une expression de son ami ennemi Huysmans, à rebours de l'évolution contemporaine du traitement des apparitions mariales par les autorités ecclésiastiques. Car en effet, dans le même temps, devant la multiplication des récits d'apparitions à l'aube des années 1870, en Alsace, en Lorraine, partout en France, à Saint-Bosile-de-la-Sylve, à Pellevoisin, à Tilly-sur-Saulle, une réaction s'est fait jour, de retour aux prudences de la tradition tridentine. Les témoins sont désavoués, la ferveur des foules est entravée, les manifestations cultuelles sont interdites, les apparitions sont occultées, oubliées, condamnées. Nulle d'entre elles ne reçoit plus, après 1872, en France, d'approbation épiscopale. De même, la multiplication des prophéties contemporaines dans le climat d'effervescence miraculaire qui suit la défaite militaire de 1870 et la Commune de Paris se heurte aux mêmes résistances de la part de l'épiscopat. Monseigneur Dupanloup s'oppose violemment à ce sujet, à l'univers de Louis Veuillot. Le second XIXe siècle est marqué par une rétractation sensible des tensions apocalyptiques et millénaristes à des groupes toujours plus restreints de la société et de la culture contemporaine. Mélanie Calva cumule, en quelque sorte, cette double défiance, témoin d'une apparition attestataire que l'autorité ecclésiastique entend reprendre en main, elle se situe également parmi les cibles les plus exposées de la réaction ecclésiale à l'encontre des prophéties contemporaines. La voyante de la Salette, devenue Sœur Marie de la Croix, n'a accepté qu'avec regret de confier son secret en 1851 au pape. Elle suit un itinéraire difficile en Angleterre, puis en France, puis en Italie, où elle finit par s'éteindre en 1904, à l'âge de 73 ans. La publication de son secret intervient tardivement en plusieurs étapes, je passe ici pour ne pas être trop long, qui vont déboucher en 1879 sur une publication avec l'imprimature de l'évêque de Lecce, Monseigneur Zola, ça ne s'invente pas. Et cette publication est aussitôt désavouée à Rome sous la forme d'une lettre du cardinal Caterini, secrétaire du Saint-Office. Mais des prêtres peu conventionnels que Blois chérit, favorise sa diffusion en France. Le chanoine Charles de Brandt dans le diocèse d'Amiens, l'abbé Émile Combe dans le diocèse de Moulins. Le secret ne sera condamné en bonne et due forme que tardivement par l'index, par un décret en date du 9 mai 1923. Il faudra ensuite alors toute l'autorité et la subtilité de Jacques Maritain pour éviter, comme l'a montré Jean-Baptiste Amadieu, à Blois une condamnation posthume. Car le secret de Mélanie est renouvelé de l'Apocalypse à l'âge des révolutions du XIXe siècle. Dieu, dit-elle, va frapper d'une manière sans exemple, malheur aux habitants de la terre, Dieu va épuiser sa colère, personne ne pourra se soustraire à tant de maux réunis, la société est à la veille des fléaux les plus terribles, Paris sera brûlé et Marseille engloutie, il y aura des guerres sanglantes, des famines, des pestes, des maladies contagieuses. Mais il s'agit également d'une violente mise en accusation du clergé. Les prêtres ministres de mon fils, les prêtres par leur mauvaise vie, par leur irrévérence, par leur impiété à célébrer les saints mystères, par l'amour de l'argent, l'amour de l'honneur et des plaisirs, les prêtres sont devenus des cloaques d'impiété. Malheur aux prêtres et aux personnes consacrées à Dieu. Il n'y a plus d'âme généreuse, il n'y a plus personne digne d'offrir la victime sans tache à l'Éternel en faveur du monde. Blois précise qu'en 1879, lors de son premier pèlerinage, il ignorait encore le secret de la Salette. Il entend désormais démontrer méthodiquement l'identité absolue du discours public avec le secret de Mélanie et l'éternelle impossibilité de les séparer. Il est temps, sinon, de conclure, je vous rassure, Monsieur le Président, car le propos même de Blois l'interdit, mais d'en venir à une ultime considération. Elle porte sur l'inscription de l'apparition dans l'histoire. L'histoire, on s'en souvient, écrivait Blois, est comme un immense texte liturgique où les iota et les points valent autant que des versets ou des chapitres entiers. La prophétie, selon Blois, regarde tout autant l'avenir que le présent ou le passé. Et même si l'auteur de « Celle qui pleure » s'applique à multiplier les preuves et les signes de sa véracité, elle ne saurait être confondue par une quelconque absence de réalisation. Parce que la parole divine est invariablement assimilée ou figurative, affirme-t-il, les prophéties sont invérifiables de ce côté de la vie, puisque même leur accomplissement n'est qu'une autre figure de l'avenir. En ce sens, comme dans tous les sens, un prophète parle toujours. Et il ajoute, les prophéties n'appartiennent pas à la durée, non plus qu'à l'espace. C'est une fête pour la pensée de les sentir palpiter au centre des temps dont elles rayonnent sur toutes les époques et sur tous les mondes. C'est dire assez que ni l'apparition, ni la prophétie, même si Blois s'efforce de les inscrire en un lieu et en un temps donné et d'exalter leurs témoins, ne sont à proprement parler à ses yeux des événements, des annonces ou des faits. Elles sont des signes inscrivant chaque moment de l'histoire du salut dans le dessein de la Providence. Celui qui écrivait qu'il était mangé par le besoin de la justice comme un dragon affamé depuis le déluge et qu'on est toujours du bon côté quand on est avec ceux qui souffrent la persécution et l'injustice assume ainsi l'extension infinie dans l'histoire du principe mestrien et baudelairien de la réversibilité qui, dit-il dans Le Désespéré, est le nom philosophique du grand dogme de la communion des saints, et qui établit entre présent, passé et avenir une solidarité d'ordre eschatologique. Il n'est d'ailleurs plus temps, précise-t-il à l'intention de son lecteur, d'argumenter ou d'ergoter à propos de la Vierge de la Salette. Il lui faut des apôtres et non des conférenciers, des témoins et non des démonstrateurs. Ce n'est pas le temps de prouver que Dieu existe, l'heure sonne de donner sa vie pour Jésus-Christ. La Salette, pense-t-il, fondamentalement, ne sera connue et comprise par et dans l'histoire que lorsque seront révélées, pour parler comme René Girard, les choses cachées depuis la fondation du monde. Et j'achèverai sur une ultime citation qui indique combien l'histoire, aux yeux de Blois, est elle-même une révélation à venir. « Ceux qui savent, écrit-il, dans le symbolisme de l'apparition, ce qu'est le dogme de la communion des saints et quel est le retentissement universel dans des millions de destinées du moindre événement humain, ceux-là peuvent se demander quels durent être les effets mystérieux de cette manifestation inouïe à un tel moment dans les trois empires concomitants de l'Église militante, souffrante et triomphante. On connaîtra quelques jours, quand les choses cachées seront manifestées à tous les hommes, l'importance réelle de ce grand événement qu'ils ont osé dédaigner en silence quand ils n'ont pas eu l'audace d'en persécuter les témoins. » Je vous remercie.